à la suite de notre série de messages sur la guérison. Le thème de notre été, c'est la guérison. Et ce matin, et lors du prochain message, deux messages qui ensemble peuvent littéralement changer votre vie. Le thème ce matin, c'est la guérison des offenses. La guérison des offenses. Et après cet été 2019, je célèbre 35 ans de pastorat à temps plein. Ça fait 35 ans que je suis pasteur à temps plein. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. C'était vraiment remarquable, c'était magnifique. 35 ans de pastorat. Et dans ces 35 ans de pastorat, à écouter des gens, à prier avec des gens, à donner notre vie, à voir des gens être restaurés, à découvrir tout ce que Dieu a pour eux, à guérir, je suis venu à l'absolue conviction que la guérison des offenses, qu'il n'y a aucune guérison qui est plus exponentielle que la guérison des offenses. Exponentielle tant négativement que positivement. L'absence de guérison, le refus d'être guéri de nos offenses a un poison exponentiel qui se répand et infecte chaque aspect de notre vie. Mais la guérison des offenses apporte une bénédiction au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, dans tout ce que vous touchez, dans toutes vos relations, dans votre relation avec Dieu, dans tout ce que vous faites. La guérison des offenses est la plus... Aucune guérison n'est plus exponentielle. Aucune guérison n'est plus déterminante et identifiante. C'est en fait notre capacité comme être humain à guérir de nos offenses et à pardonner qui nous distingue. Ce n'est pas le fait qu'on va à l'église, qu'on chante des chansons, qu'on connaît des versets, et que... Non, Jésus a dit, c'est à l'amour. Il y a une mesure d'amour que vous allez avoir les uns pour les autres. Une capacité de guérir de vos offenses. C'est à ça qu'ils vont savoir que vous m'appartenez. Lorsque vous prierez pour ceux qui vous ont fait du mal, lorsque vous pardonnerez, c'est ainsi qu'on vous appellera fils et filles de Dieu. C'est notre capacité surnaturelle à aimer qui nous distingue et nous identifie. Aucune guérison n'est plus, et ça c'est intéressant et important, n'est plus accessible à notre portée, de notre choix, de notre ressort, de nos décisions. Dans la grande marche avec Dieu, sur le chemin de la vie au fil des années, il y a des guérisons qui sont entièrement dans ses mains, dans sa souveraineté, où on a donné, on a prié, on a tout, on est entre ses mains, mais nous n'avons pas de contrôle ultime sur la guérison ici. Mais alors que nous sommes dans l'assurance, chaque chrétien sait que toutes les guérisons sur cette terre sont des guérisons temporaires, mais nous sommes tous complètement assurés d'une guérison éternelle avec lui. Quelqu'un devrait dire oui. Mais la guérison de l'offense est particulière parce qu'elle est entre nos mains. Les armes, on va le voir ce matin dans le prochain message. Les armes, tout ce qui est nécessaire, la puissance, tout ce qui est nécessaire pour en guérir est déjà accompli. C'est à nous de nous en emparer. C'est une action de notre volonté. Celui qui reste dans l'offense le fait par choix. Aucune guérison ne sera plus nécessaire dans chaque saison de votre vie chrétienne. Quel que soit le moment de votre vie chrétienne, vous allez avoir de nouvelles opportunités, des saisons, vous allez avoir à relâcher, vous allez avoir à guérir d'une offense. Jésus l'a dit de manière la plus, c'est tellement sans équivoque, Luc chapitre 17 et le verset 1. Jésus a dit à ses disciples, il est impossible, voulez-vous dire à voix haute le mot impossible? Il est impossible qu'il n'arrive pas des offenses. C'est impossible. Il n'y a aucune relation humaine où l'erreur, le péché, le péché qui manquait la cible, ou l'erreur, le péché, les blessures, la déception. Il n'y a aucune relation humaine où des attentes non rencontrées, où des offenses n'existent pas. Elles font partie des relations humaines. Voici une prophétie qui est certaine de s'accomplir. Dans votre marche avec Dieu, dans cette année 2019, à chaque année de votre vie, jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour vous, vous allez à un moment ou à un autre être offensé. Et vous allez aussi offenser des gens sans le vouloir. Vous allez être offensé, vous allez offenser. Alors que vous allez offenser, la question n'est pas ce que je vais offenser, ce que je vais être offensé. Alors que vous allez offenser, allez-vous avoir l'humilité de demander pardon pour vos offenses et vous repentir. Alors que vous êtes offensé, allez-vous avoir l'obéissance et la foi de pardonner et d'être libéré de l'offense. Allons-nous pardonner et être restaurés ou tomber dans le piège et être réduits, et oui, non seulement réduits, mais même ruiné spirituellement par le piège des offenses. Parce que comprenez bien que lorsque Jésus parle d'offense, le mot offense dans le Nouveau Testament, dans le grec, c'est skandalon, skandalizo, qui veut littéralement dire le bâton du piège. C'est un piège. C'est une image qui était très compréhensible pour eux. Le chasseur, le trappeur, préparait sa trappe, préparait son piège et mettait quelque chose pour appâter sa victime, sa proie. Il y avait un bâton et lorsque tu touchais le bâton, le piège se fermait sur toi. Il dit littéralement, l'offense, c'est un piège. C'est une occasion de chute. C'est scandalon, c'est le piège du danger de tomber, de succomber, qui attire afin de nous piéger et de chuter. Et ce n'est pas seulement un piège avec une dimension humaine, les relations humaines, il y a un piège parfois là-dedans. Ce n'est pas seulement une dimension humaine. Lorsque l'apôtre Paul enseigne le jeune pasteur Timothée, qui est aux prises avec des chrétiens qui ont vécu des offenses et qui se déchirent l'un l'autre, il lui donne cet avertissement très, très important. Le scandalon, le piège, n'est pas seulement humain. Il lui dira qu'il parle de ceux qui ont été offensés. Il dit que Dieu leur donne repentance afin qu'ils se libèrent des pièges du diable. Il y a dans l'offense un piège qui est satanique, un piège qui est afin que l'ennemi, littéralement, c'est grave, que l'offense, si tu la laisses se perpétuer dans ton cœur, que l'ennemi, littéralement, s'empare de toi afin de te soumettre à sa volonté. Et la volonté de l'ennemi, Jésus l'a décrit, il est un voleur, il vient pour tuer, pour égorger, pour détruire, pour aborter la volonté de Dieu et l'appel de Dieu et la bénédiction de Dieu sur ta vie. Il y a quelque chose qui rugit en moi qui dit, par la grâce de Dieu, nous ne laisserons pas le piège de l'offense nous voler et nous soumettre à notre ennemi. Nous voulons être soumis à la volonté de Dieu. Mm-hmm. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus enseigne sur les temps de la fin. C'est un enseignement qui est fascinant, un enseignement eschatologique, où il enseigne sur les temps de la fin, vous lirez, et où il annonce des choses qui ont été, à une certaine mesure, présentes à travers toute l'histoire, mais qui vont s'intensifier en force, en intensité, mais aussi en fréquence. Il le compare aux douleurs de l'enfantement, comme une femme. Ces douleurs se prennent de plus en plus rapprochées, de plus en plus intenses, jusqu'à l'accouchement. Il dit ces signes vont être présents. Il donne une liste dans Matthieu 24 qui est brûlante d'actualité lorsqu'il parle de l'explosion exponentielle de la connaissance humaine, mais en même temps, nation contre nation, division ethnique, discrimination, persécution de plus en plus intense contre le message chrétien, détérioration, les signes dans les cieux et sur la terre, détérioration de la planète, famine, tremblement de terre, des choses naturelles, des choses extérieures, mais il donne aussi des signes des temps de la fin qui sont intérieurs, qui vont prendre place dans son Église, dans son peuple, et qui vont prendre place dans nos cœurs. Et il dira ceci, c'est littéralement un portrait prophétique du besoin de notre guérison, continuer à renouveler de nos offenses. Parce que dans Matthieu 24, il dira ceci, Matthieu 24, 10, « Alors plusieurs », le mot grec utilisé signifie la majorité, c'est un terme légal comme nous aujourd'hui, 50% plus 1, c'est une majorité, il a obtenu la majorité. Alors plusieurs, un grand nombre, seront offensés, ils vont succomber au piège. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres, offensés, qui trahit et qui en vient à haïr. Littéralement un portrait prophétique et en 35 ans de ministère pastoral. J'ai vu l'offense faire son œuvre. Les offenses, j'ai vu l'offense voler des gens, j'ai vu l'offense détruire des couples, le non-pardon détruire des mariages, détruire des familles, détruire des amitiés, détruire des appels, détruire des ministères, faire que des gens qui avaient un témoignage extraordinaire en viennent à, par leur amertume, s'éloigner de tout ce qui était de Dieu. Ils ne peuvent même plus, c'est comme si leur témoignage leur avait été volé par les offenses. Les offenses, il y a comme une espèce de régression tellement toxique. Vous allez être offensé, vous allez haïr et vous allez trahir et vous allez même haïr. Proverbe 18-19 le décrit de cette façon. Et ça a été écrit il y a 3000 ans. Et regardez à quel point c'est une description de lorsque nous sommes offensés. Une personne offensée devient plus inatteignable qu'une ville fortifiée. Elle est plus difficile à gagner qu'une forteresse. Et ses offenses sont comme les verrous d'un palais. Et une personne qui, après tant de six années de pastorat, une personne qui baigne, qui est dans le vinaigre de l'offense, il n'y a plus rien qui entre et qui sort. Elle est comme ça. Et là, ce qu'il parlait des verrous d'un palais, imaginez les villes fortifiées sur des montagnes avec des murs immenses autour. Et le verrou du palais, c'était personne ne peut y entrer, des immenses murs partout autour. Et les forteresses, c'était les villes fortifiées. Rien ni personne ne peut entrer. La nature de Dieu exprimée en Jésus-Christ et son esprit en nous, lorsque quelqu'un marche dans l'esprit de Dieu, la nature de Dieu, c'est d'abattre des murs et c'est d'ouvrir ses bras et c'est de recevoir et c'est de donner. Mais la nature, l'offense, elle, fait que la personne offensée se ferme. Elle se ferme. Elle se ferme à Dieu, elle se ferme aux gens, elle se ferme, elle devient de plus en plus fermée. Elle est comme une forteresse, elle est verrouillée. Et les forteresses qui nous verrouillent, les forteresses qui nous emprisonnent, ne sont pas des murs physiques, bien sûr. L'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, dira, les décrira d'une manière extrêmement claire. Voici les forteresses qui tiennent emmurées, qui tiennent captifs des prisonniers de l'offense. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la capacité, la vertu, le flot de la vie de Dieu pour renverser des forteresses. La personne offensée est plus difficile à gagner qu'une forteresse. Mais voici maintenant, par la puissance de Dieu, nous avons des armes pour renverser les forteresses. Et vous, c'est quoi les forteresses? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous saisissez, est-ce que vous croyez ce matin que par la vertu de Dieu, Dieu ne nous laisse pas sans armes, il a pourvu les armes afin qu'on puisse renverser toutes les forteresses d'offense, toutes les forteresses de souffrance, toutes les forteresses de captivité. Nous avons les armes, voulez-vous célébrer les armes que Dieu nous donne? On va les découvrir ensemble. Littéralement, des forteresses qui sont des murs qui ne sont pas physiques. Ce sont littéralement, et l'apôtre Paul l'explique, ce sont des forteresses qui sont spirituelles, qui sont émotionnelles, qui sont relationnelles. Des forteresses qui sont des raisonnements. Les forteresses qui nous tiennent captifs lorsqu'on est offensé, c'est des raisonnements. Tout raisonnement, toute pensée, toute façon de penser, toute perspective qui habite notre conscience, qui habite notre cœur, et qui, de la bouche du cœur, la bouche se met à parler, de l'abondance du cœur, la bouche se met à parler dans cette direction-là, qui s'élève contre la hauteur de Dieu, de son autorité, de sa parole, de ses commandements, de pardon sur nos vies. En d'autres mots, le non-pardon est un péché d'orgueil, et le non-pardon est un péché de rébellion, et le non-pardon est une idolâtrie. C'est un péché d'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est d'élever quelque chose au-dessus de Dieu. Et la question de l'esprit, c'est, avez-vous réalisé, est-ce que peut-être que c'est toi ce matin, que lorsque ton offense, as-tu élevé ton offense au-dessus de Dieu, au-dessus de son pardon, au-dessus de ses promesses, au-dessus de ses commandements, au-dessus de son onction, au-dessus de son esprit, au-dessus de son appel à le représenter, au-dessus de son amour pour son peuple, au-dessus de ton rôle dans son Église. J'ai côtoyé et j'ai été tenté moi-même. L'offense peut devenir l'idole que tout occupe toutes mes pensées, mais la parole de Dieu dit tu vas vaincre l'offense en réalisant que tu dois amener chaque pensée, amener ton cœur, amener ta perspective à abattre ces forteresses et à élever Dieu à l'endroit où il est supposé être, au-dessus de tout. L'offense qui devient rancune et amertume, trahison, est tellement plus sérieux pour Dieu que nous voulons bien l'admettre. L'apôtre Jean le dira de cette façon, c'est offense, trahison et haine, a dit Jésus. 1 Jean 3,15, quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Lorsque nous demeurons dans l'offense, nous assassinons la joie de Dieu. Nous assassinons la paix de Dieu. Nous assassinons des relations. Nous tuons les promesses de Dieu. Nous tuons notre témoignage. Nous tuons notre appel. Nous tuons notre impact. Nous tuons la représentation de Jésus que nous sommes appelés à être. Et comprenez bien. L'offense dans le cœur est quelque chose d'insidieux. Chaque personne, personne ici regarde à gauche, à droite, tout le monde regarde à son propre cœur dans ces deux messages. Parce que ce n'est pas seulement lorsqu'on a l'idée d'une personne offensée, on a une image de quelqu'un qui a le poing serré puis qui vocifère avec un rictus de rage sur son visage. Non, c'est beaucoup plus deep que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Tu peux être à l'église en train de chanter et il y a une offense dans ton cœur où tu peux être éloigné de l'église. Tu parles comme de normal. Tu interagis encore en apparence avec une façade, mais il y a quelque chose à l'intérieur. La Bible nous dit, par exemple, de Absalom dans 2 Samuel 13, 2. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amon, son frère, mais il l'avait pris en haine. Tu aurais côtoyé Absalom, tu n'aurais rien vu. Mais il y avait une haine dans son cœur. Puis là, vous trouvez les mots de Jésus, c'est les mots, c'est fort. Comment c'est? De l'offense à la trahison à la haine. Il faut comprendre les mots. La personne offensée en vient à trahir. Trahir, c'est pas seulement Judas, j'ai trahi. Trahir veut simplement dire, je vais trahir lorsque je recherche mon bénéfice aux dépens de la personne, de la cause ou de l'engagement avec lequel je suis en relation. Je trahis mon pays, je trahis mon ami, je trahis mon époux, mon épouse, je trahis ma famille spirituelle, je trahis mon Dieu. Lorsque c'est rendu tout à propos de moi et plus rien, tu passes de l'offense, quelle dégradation, à la trahison, à la haine. Et le mot haine, bibliquement, dans le Nouveau Testament, parle simplement d'un vide d'amour. Loveless. À force de laisser l'offense faire son œuvre, tu en viens t'éloigner, tu en viens centrer juste sur toi-même, juste sur ton offense qui est ton idole, et tu en viens à une place où est-ce qu'il y a un vide d'amour. Un vide d'amour pour les gens, un vide d'amour pour son peuple, un vide d'amour pour sa parole, un vide d'amour pour sa présence, un vide d'amour pour Dieu lui-même et pour son appel. Et l'appel et le portrait prophétique de Jésus va plus loin dans quelque chose, après toutes les années d'étudier la Bible, que j'ai vu récemment avec une clarté que je n'avais jamais vue auparavant. Un portrait prophétique de pourquoi nous avons besoin d'être guéris des offenses et de les prendre au sérieux. Il continue en disant, oui, plusieurs seront offensés dans les temps de la fin, vont succomber au piège, ils vont se trahir, ils vont haïr les uns les autres. Mais regardez bien. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Saisissant. Depuis 35 ans de pastorat, j'ai vu comment les personnes offensées sont vulnérables, deviennent vulnérables pour les faux prophètes. Deviennent vulnérables pour être séduits. L'offense non résolue est une terre fertile pour les séductions spirituelles. Plein de gens qui maintenant sont hors de l'Église, attaquent l'Église, se sont éloignés. Ça a commencé avec une offense et ces personnes-là se retrouvent. Et habituellement, il va y avoir quelqu'un qui est là, envoyé par l'ennemi pour les séduire. Pour les séduire dans un faux évangile. J'ai vu ça avec une clarté. Comprenez que les faux prophètes ne sont pas tous sur l'estrade, ne sont pas tous des pasteurs ou des prédicateurs. Il y en a. Mais Jésus a dit, les faux prophètes vont venir, et c'est des loups avec des habits, pas des habits de berger, des habits d'agneau, de brebis. Alors, les faux prophètes qui séduisent les gens ne sont pas seulement des faux pasteurs sur l'estrade, c'est aussi des personnes dans l'Église. Ce sont des gens parmi le peuple. L'apôtre Paul, dans Acte 20, avertit les Éphésiens, les loups ravisseurs vont venir pour vous déchirer et ils viennent parmi vous et du milieu de vous. Lorsque tu permets, tellement de gens ont laissé l'offense faire son œuvre en eux et lorsqu'ils sont dans l'offense, ils deviennent vulnérables à n'importe quelle affaire, n'importe quelle doctrine, surtout si ça attaque ou dénigre l'Église et se retrouve éloigné. Et plus que ça, Jésus dira, le portrait prophétique, et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le mot iniquité ici, anomia, n'est pas, c'est lawlessness. C'est littéralement, suivez bien la progression, c'est une régression au fond. C'est la personne qui est offensée, et qui devient de plus en plus centrée sur elle-même, et qui trahit et qui est centrée sur elle-même, elle devient de plus en plus ce vide de l'amour de Dieu, de l'amour d'empathie pour les autres. Elle devient une proie facile pour les séducteurs, et elle devient de plus en plus lawless. Lawless, sans loi. Je n'ai plus d'autorité sur moi. Je n'ai plus de commandement sur moi. Pas ceux de Dieu, pas ceux d'une église, pas ceux de... Il y a des ministères qui ont été envoyés en exil pendant 10 ans parce qu'à partir d'une offense, on dit plus jamais, je ne serai plus jamais sous personne. Puis vous dites, non. Lawless, l'iniquité, là, c'est les gens du monde, les gens extérieurs. Oh non. Parce que Jésus ici dit, l'amour d'un grand nombre refroidira. Il n'utilise pas un des mots grecs pour décrire des formes, des manifestations d'amour qui étaient autant pour ceux qui sont croyants ou non croyants, comme Philios, comme Iorgé ou comme Eros. Non, il dit, l'agapé de Dieu, l'amour de Dieu dans leur cœur s'est refroidi. Et l'agapé de Dieu, c'est l'amour de Dieu que ce monde ne connaît pas, qui est répandu dans nos cœurs pour les croyants, par le Saint-Esprit. Et qui, alors, il n'est pas en train de dire les gens, il ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu comme ceux qui devront persévérer, parce qu'ils n'ont même pas commencé dans le cheminement de la foi. Alors, le portrait est saisissant. Il est terrifiant de croyants qui deviennent de plus en plus. Moi, je vais être sous aucune autorité. Je vais être sous personne. Ils sont trahis. Ils sont dans la haine. Ils sont cette offense qui les dévore par la grâce de Dieu. Je dis, Seigneur, donne onction ce matin. Viens nous libérer, ouvrir nos yeux à la gravité de l'offense. Je ne veux pas que mon amour se refroidisse. Je veux qu'elle se renouvelle devant toi. Au nom de Jésus, voulez-vous fermer la porte à l'ennemi avec moi? Le refroidissement de notre amour est souvent directement en relation avec le niveau de la personne qui nous a offensés, le niveau relationnel de la personne qui nous a offensés. David le décrit bien. Il dit, c'est pas quelqu'un d'étranger. C'est des gens qui étaient loin. En d'autres mots, plus les gens sont proches, plus ça nous fait mal. Plus ces offenses-là peuvent nous marquer longtemps. Dans le psaume 55, David dira ceci. Ce n'est pas, psaume 55, verset 12 à 15. Ce n'est pas un ennemi qui m'a offensé, je le supporterai. Ce n'est pas un adversaire qui s'élève contre moi, je l'ignorerai. Mais c'était toi. C'est toi qui m'as trahi. C'est toi qui m'as offensé. C'est toi, mon ami, mon frère, mon compagnon, mon confident. Je t'avais donné toute ma confiance. Ensemble, nous étions comme des frères. En français, certaines traductions l'ont traduit de l'hébreu. C'est tellement intense comment David utilise des mots en hébreu. Il dit, ensemble, nous avions une relation intime, relation de cœur. On portait des choses ensemble alors que nous allions avec la multitude à la maison de Dieu. La majorité des théologiens, des commentateurs vont nous dire qu'il parlait à ce moment-là de Achitophel, qui était son bras droit, qui était celui qui avait bâti tout avec lui, il s'était confié à lui, ils avaient fait 1000 combats ensemble, et Achitophel a pris une décision à un moment, s'est éloigné, a laissé l'offense dans son propre cœur, et s'est allié avec son fils Absalom pour détruire le père. Et David dit, c'était toi qui étais tellement, tellement proche de moi. Ce qui est remarquable, c'est que la Bible, qui connaît l'être humain si parfaitement, la Bible reconnaît qu'il y a des degrés d'offense. Ce n'est pas toutes les offenses qui sont pareilles. Souvent, nous avons une espèce de légèreté, flippancy, une espèce de légèreté, « Ah, tu es offensé, pardonne. » Non, la Bible comprend qu'il y a des offenses et il y a des offenses. David a dit, « Si ça avait été un étranger, là, je l'aurais ignoré. » Ça, je suis capable de comprendre, je suis capable de considérer la source. Mais là, c'est un autre niveau d'offense. Laissez-moi illustrer ça. Si je demande à mon ami Serge Cusson de venir me rejoindre. En passant, lorsqu'on parle de fidélité, Serge Cusson est là avec nous depuis les débuts de Nouvelle Vie, un homme de Dieu avec un témoignage extraordinaire. David dit, il y a des offenses. David, comme ça. David dit, il y a des offenses et des offenses. J'ai un peu peur parce que c'est Serge Cusson quand même. Il y a encore un hook. Est-ce que tu as aimé ça? Il y a une offense. Je n'ai pas aimé ça. Ça m'a déstabilisé. Ça l'a surpris. Ça l'a déstabilisé. Peut-être que ça l'a déçu de son pasteur de le pousser comme ça. Mais David dit, une offense comme ça, là, je l'aurais supporté. Mais la Bible enseigne qu'il y a des niveaux d'offense. Il y a des offenses qui font mal un peu, qui te shake, mais il y a d'autres types d'offenses. Il y a d'autres types d'offenses, vous les avez vécues, je les ai vécues, que c'est vraiment comme si quelqu'un nous frappait et nous faisait tellement mal que tu as le goût en retour de prendre, attention, de prendre. Je crois qu'on va arrêter l'illustration ici. Voulez-vous ça? Voulez-vous applaudir Serge Cusson? Il y a des niveaux d'offense. C'est des ennemis là, qui attaquent. C'est quelqu'un sur les réseaux sociaux qui dit des folies sur toi, c'est une chose. Les inconnus, les connaissances du monde au bureau, au travail, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais lorsque c'est ta famille, lorsque c'est tes amis, lorsque c'est des mentors, David dit, c'était toi, là, je m'étais confié en toi, je t'avais ouvert mon cœur. Plus l'offenseur est proche, plus l'offense est profonde. Plus la coupure et l'offense va toujours être proportionnelle à quel point j'ai ouvert mon cœur à la personne. J'ai eu le privilège, puis c'est un moment très, très émouvant, d'assister à la dernière prédication publique de David Wilkerson. Il l'a dit lui-même, et c'est ça qui est arrivé. Il était quelques mois avant qu'il nous quitte pour aller être avec le Seigneur. Et on avait une grande conférence au Colorado, et il était très, très affaibli physiquement dans une chaise. Il ne pouvait plus se tenir debout pour prêcher. Et il s'est simplement assis pendant quelques minutes pour partager, puis il a dit ceci, mon dernier message public. Et il a partagé son cœur, et c'était un moment vraiment très, très émouvant. Et à la fin, quand tout était fini, j'ai eu le privilège, j'étais assis à côté de lui, il y avait un petit salon, il y avait des gens partout autour, puis j'étais assis à côté de lui, et il avait dit, c'est ma dernière, j'avais aucune idée qu'il était pour nous quitter quelques mois auparavant, mais j'avais un sens que c'est une fin de saison dans sa vie, et je lui ai posé, on était tout seul, et je lui ai posé des questions, il y avait des choses qui brûlaient sur mon cœur, puis j'ai demandé, c'est quoi, toutes ces années-là, là, 50 ans, 60 ans de ministère dans son cas, c'était quoi le pire ennemi, c'était quoi le plus dur, c'était quoi votre plus gros combat, c'était quoi la chose que vous avez eu le plus à combattre? Qu'est-ce qui aurait le plus risqué de tout balancer, de tout détruire? Et sans aucune hésitation, en anglais, on dit « without missing a beat », sans aucune hésitation, il a dit « offenses », les offenses. tes blessures. Et tout à coup, sans avertissement, a ouvert son cœur. Je n'aimerais jamais les noms ici, mais a parlé de deux personnes comme David. A parlé de deux qui étaient tellement, tellement proches de lui, qui pendant des années, à une certaine époque, lorsqu'il était au début de la soixantaine, alors qu'il était rendu 20 ans plus tard, avait monté des attaques contre lui qui avaient duré pendant des années, puis il m'avait expliqué que c'était tellement douloureux, parce que c'était tellement déchirant, tout ce qu'il avait dit. J'ai combattu des démons partout dans le monde, mais ça, là, de l'intérieur, comme ça, là. Il raconte que c'était tellement douloureux, il dit que des fois, il dit que c'est son épouse qui l'habillait, qui mettait son veston, sa cravate pour aller prêcher, tellement qu'il souffrait. Puis un matin, il s'est levé, et lorsqu'il s'est regardé dans le miroir, il avait le blanc des yeux tout injecté de sang. Pareil comme quelqu'un qui a un boxeur qui a reçu des coups. Puis il est allé voir le médecin, qu'est-ce qui m'arrive? Le médecin dit, vous êtes cogné, vous avez un accident de taux, avez-vous? Non, non, rien. Et finalement, Will Christian a dit, bien, je traverse des grosses épreuves en ce moment, et j'ai pleuré une partie de la nuit. Le médecin dit, vous avez crevé toutes les veines de vos yeux. Et il a raconté que c'est. Et j'ai dit, bien, que. How did you make it out? Comment est-ce que vous avez réussi à? Il s'est même partagé comment, et c'est ce que je vais apporter ce matin, mais surtout dans le prochain message, le plan de Dieu, le comment de Dieu pour la libération, la guérison. Mais comment est-ce que de prier pour lui-même pendant des mois et des mois, je ne laisserai pas ça me définir, je ne laisserai pas ça. Et après, d'oser dire, j'ai commencé, je ne suis pas capable au début, mais de prier pour eux, de prier pour eux. Et après, de Dieu lui dire, j'ai résisté pendant des semaines et des mois, mais tu vas commencer à aller bénir ceux qui t'ont fait du mal. Et lui, ben, moi, je n'ai même pas demandé, c'était qui, on était assis ensemble. Et puis, il me dit, do you know what I'm talking about? Parce que moi, je ne connaissais pas cette histoire-là. Je dis non. Puis sans aucune colère ou amertume, il m'a juste pointé. Et les personnes étaient là et avaient rendu hommage à ces personnes. Le pardon l'avait amené à une dimension de réconciliation. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a une différence entre pardon et réconciliation. Parfois, le pardon ne pourra pas faire en sorte que tu ne pourras pas te réconcilier. Jésus, à la croix, Père, pardonne-leur. Il a offert le pardon. Il était maintenant disponible, mais c'est la repentance d'une personne à la fois qui fait que les personnes accèdent au pardon. Il y aura des moments où, alors que tu vas chercher ta victoire et ta guérison sur l'offense, que ça mènera à une réconciliation miraculeuse. Il y aura d'autres moments où, à cause de l'autre personne, c'est hors de ton contrôle. Même elle est décédée, elle n'est pas là, ou elle est là, mais elle ne viendra pas. Ça ne veut pas dire que toi, tu as besoin de la laisser contrôler ta vie. Nous pouvons relâcher l'offense, fermer la porte à l'ennemi et être rempli à nouveau de l'amour de Dieu et marcher dans la guérison de l'offense, quelle que soit la décision de l'autre personne. Vous pouvez applaudir avec moi. Un portrait prophétique, et Jésus nous révèle, on commence ce matin dans le prochain message, le pardon comme seule source de puissance pour cette guérison. La guérison, Jésus nous enseigne, quelques pages avant, dans Matthieu chapitre 18, tournez à Matthieu 18, et Jésus enseigne que le pardon... La guérison de l'offense n'est pas dans le déni. Non, je suis correct. La guérison n'est pas dans le déni. La guérison n'est pas dans des temps d'arrêt. Je me retire, je m'isole. La guérison n'est pas dans l'isolement. La guérison n'est pas dans le défoulement. J'ai ventilé. Il y en a qui font des années qui ventilent sur tout le monde qui veulent bien les entendre. Il n'y a personne qui guérit par ça. La guérison n'est pas même dans un zapping divin. Si Dieu veut m'enlever ma colère, il me l'enlèvera. Non, la guérison, la seule source, mais elle est infinie, elle est sans limite, elle est toute puissante. La seule source du pardon, la seule source de puissance pour la guérison de l'offense, c'est le pardon répandu par Dieu dans nos cœurs. Et c'est pour ça que Jésus enseigne. Dans Matthieu 18, vous lirez à la maison du verset 1 à 35, c'est le même message, un message qui est extraordinaire. On va le découvrir et développer ensemble dans le prochain message aussi, sur le plan de Dieu pour son enfant, pour les enfants de Dieu, pour le pardon. C'est le même message, il y a une interruption. Au verset 21, c'est Pierre qui va interrompre le message avec une question. Pierre avait un don d'interruption. C'est un don, il avait un don d'interruption. Alors, il va interrompre le Seigneur avec une question. Le Seigneur enseigne sur l'offense, sur le pardon des offenses, sur la puissance pour guérir des offenses. Et au verset 21, alors Pierre s'approchait de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ces hommes, tous les disciples, avaient grandi avec la loi. Et tous les historiens nous disent qu'à partir de l'Ancien Testament, jusqu'au moment où cette conversation prend place, que Jésus arrive, les rabbins avaient ajouté et avaient adapté et avaient mis une limite. Il y a plein d'écrits de rabbins qui disent, tu pourras pardonner jusqu'à trois fois dans une vie. Quelqu'un fait quelque chose une fois, deux fois, trois fois, et c'est toi qui vas déterminer les limites de ton pardon. C'est pour ça qu'il y a une histoire qui peut être racontée d'un rabbin qui s'en allait avec son épouse à côté de lui, son cheval, s'en allait avec ça. Et sur la route, tout à coup, le cheval s'emballe, les renverse dans le ravin, et puis là, il est tout obligé de s'en aller dans le bout, sort le carrosse, ramène, et là, il dit au cheval, une fois. Continue quelques mètres plus tard, pas tard, le cheval qui s'emballe encore, ramasse tout le monde dans la boîte, et il leur sort encore avec patience, puis il dit, deux fois. Et tout à coup, quelques mètres plus tard, pire, il est garoche de l'autre côté, dans la boîte, etc. Le rabbin sort son fusil, bang, fini le cheval. Son épouse dit, ben voyons donc, chérie, qu'est-ce que t'as fait là, notre cheval? Il dit à son épouse, une fois. Si ce gag vous offense, c'est grâce au titre de Pasteur Sam qui me l'a conté il y a 30 ans à peu près. L'apôtre Pierre, les disciples étaient continuellement en compétition à savoir qui était pour être le plus grand, littéralement même, qui va être le plus grand. Toujours en train de jockey for position. Et l'apôtre Pierre avait compris, comme la majorité des chrétiens, manquez pas ceci, après 3 ans de compassion et d'amour et de pardon de Jésus, l'apôtre Pierre avait compris, avait comme pogné le message que 3 fois, là, ça c'était la loi, mais qu'avec Jésus, les chrétiens, j'espère que vous avez compris ce message-là, que nous, les chrétiens, en général, on devrait être plus gentils. Personne ne dit amen à ça? Vous ne trouvez pas ça que c'est... Je vais le répéter, vous allez dire un grand amen. En général, nous, les chrétiens, devrions être plus gentils. Dis à la personne à côté de vous, sois gentil avec moi. Dis à la personne à côté de vous. Be nice, be kind, please. Mais l'apôtre Pierre veut bien paraître. L'apôtre Pierre dit, OK, c'était 3 fois. Là, c'était, avec Jésus, c'est plus. Mais c'est moi qui, quand même, détermine les limites. Là. Fait que je vais aller pour la totale. Je vais aller pour le banco. Je vais aller pour... Regardez bien ça, les gars. Excuse-moi, Seigneur, j'interromps ton discours sur le pardon, la puissance pour guérir des offrandes. Écoute bien ça. Jusqu'à combien de fois devrais-je pardonner? Est-ce que jusqu'à 7 fois? Non, jusqu'à 70 fois. Cette fois, il y a un autre évangile de Luc qui dit « en une journée, les théologiens ». En d'autres mots, c'est comme je disais, 70 fois cette fois, c'est 490 fois. Pour que tu m'offenses 490 fois dans une journée, il faut que tu m'offenses à tous les 3 minutes, 24 heures sur 24, sans qu'on dorme ni un ni l'autre. On recommence demain. Alors, vous savez, comprenez très bien que ce n'est pas une affaire de chiffres. Dieu est en train de dire « ce n'est pas toi qui détermine la limite ». Tu vas devoir pardonner comme moi, je vous ai pardonné vous. Sans limite, sans arrêt, sans relâche, sans nier les comptes. C'est un pardon qui va être illimité, qui va être surnaturel, qui va être rendu possible par mon esprit en vous, par ma parole en vous. Et dans le combat, dans la vie, dans le processus de guérison des offenses, il y a juste 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui ont vraiment été maltraités, puis il y a ceux qui pensent qu'ils ont été maltraités. Je n'ai pas le temps d'aller avec ceux qui pensent qu'ils ont été maltraités parce qu'il y a plusieurs d'entre nous on a vraiment été offensés. Et lorsque tu as été vraiment offensé, il y a une question à un moment donné que tout le monde se pose. Est-ce que je n'ai pas le droit, moi, d'être offensé? J'aimerais te dire ce matin, oui, absolument. Dieu protège ton droit, Dieu te donne une volonté libre, Dieu te donne un libre choix. Tu as toujours le droit d'être offensé et c'est humain d'être offensé. Mais si tu veux suivre Jésus, si tu veux être un enfant de Dieu, si tu veux répondre à son appel, si tu veux son onction sur ta vie, si tu veux sa bénédiction sur ta vie et si tu veux avancer en fermant les pièges de l'ennemi et en marchant conduit, rempli par l'Esprit, tu ne peux pas rester offensé. Tu ne peux pas demeurer offensé. Et alors, tout le temps, il y a la question. À ce moment-là, c'est OK, mais tu ne sais pas ce qui m'a fait. Tu ne sais pas ce que j'ai enduré, ce que Jésus a effacé. Et voici la réponse de Jésus. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer son maître, il ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie compassion, aie patience envers moi, je vais te payer tout. » Yes, right. Yeah, right. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Et après qu'il fut sorti, le serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. L'autre, c'était 10 000 talents, 100 deniers. Il a saisi l'étranglé en disant, « Paie-moi ce que tu me dois! » Son compagnon se jetant par terre, dit la même chose qu'il avait dit au roi. « Aie compassion de moi, impatience envers moi! » Mais l'autre ne voulut pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui avait payé ce qui lui devait. La question, est-ce que j'ai pas le droit d'être offensé? Puis tu sais pas, parce que tu sais pas tout ce que j'ai vécu, tu sais pas tout ce qui m'a été fait. Et la réponse de Jésus, il donne une parabole, et c'est la seule parabole que Jésus explique et interprète lui-même. On va voir ça cette semaine et la semaine prochaine. Les autres paraboles, souvent, il va les expliquer à ses disciples. Mais celle-là, il va lui-même donner l'application parce qu'elle est tellement contre notre nature qu'il est très facile pour nous de prendre juste la première partie de la parabole, mais pas la deuxième. La première partie, c'est bien sûr que le roi représente Dieu et que le serviteur, c'est nous qui avons une dette. Et là, les théologiens disent combien ça vaut 10 000 talents aujourd'hui? Ça vaut minimum 1 milliard. C'était pour eux, c'était insensé. C'était comme 200 ans de travail, 200 ans de journée d'ouvrage. C'était une dette. Le point, c'est que c'était une dette qui n'était pas remboursable. Si vous êtes ici et vous dites, 1 milliard, c'est pas tant que ça, une dette pas remboursable. Si vous pensez qu'un milliard, c'est une dette remboursable, on aimerait vous rencontrer après la réunion. On a des projets de construction à vous présenter. Non, c'est une dette qui était complètement non remboursable. La dette que nous avions envers Dieu était complètement non remboursable. Le Dieu d'entière perfection et sainteté et pureté, mes mensonges, mes tromperies, mon meurtre, ma méchanceté, mon égoïsme, tout ce qui est ma nature elle-même était offense devant lui. J'avais une dette qu'aucune œuvre, je n'étais pas capable. Lorsqu'il a dit, donne-moi du temps, je vais leur payer. Tu ne pourras jamais faire assez d'œuvres, assez de bonté, assez de changement sur toi-même pour effacer ta dette envers Dieu. C'est lui qui a ouvert ses bras de compassion, envoyé son fils, et l'innocent est venu payer la dette pour les coupables. Ma dette, ta dette a été effacée. Est-ce qu'on pourrait applaudir celui qui a effacé notre dette? Effacée. Oui, mais tu ne sais pas qu'est-ce que moi, tu ne sais pas tout le mal que cette offense-là m'a fait. Jésus répond, tu ne sais pas tout le mal que ton offense a fait à Dieu. Il ne dit pas que ce que nous a offensé n'est rien. Lorsqu'il dit ça, c'était 10 000 talents, ça c'est 1 milliard. Toi, tu as été effacé une dette d'un milliard. Puis l'autre a pris une dette, il y a eu une offense, c'était l'équivalent d'un tiers d'une année de salaire. Certains disent 10 000 $ mais c'était un tiers d'une année de salaire. Tout le monde ici, si on t'enlève, un tiers d'une année de salaire, ça fait mal. C'est quelque chose qui change tes choses. C'est quelque chose qui te met dans le trouble. Alors, Dieu n'est pas en train de dire ton offense n'est pas grave. Dieu n'est pas en train de dire ce que tu as vécu n'a rien coûté, c'est pas grave, c'est rien à effacer. Dieu reconnaît, mais il est en train de rappeler à son enfant, rappeler avec amour en l'enfant de Dieu que ta dette est bien pâle en comparaison avec ce que Dieu a effacé envers toi. Que tu as reçu un pardon. Un pardon qui fait que plus rien ni personne ne pourra te séparer de Dieu. Un pardon qui fait que maintenant tu es enfant de Dieu. Ceux d'entre vous qui avez rétrogradé, vous avez quitté, vous avez menti, et chacun d'entre nous. Et ce n'est pas un pardon juste à partir du moment où j'ai accepté le Seigneur. Toutes mes autres fautes, tous mes autres péchés, toutes mes autres choses qui sont répugnantes pour Dieu ont été couvertes par son amour. Il a effacé ma dette et rien ni personne ne peut me séparer de lui. Tu devrais dire « Amen, j'ai été pardonné 1 milliard ». Paul dira aux Colossiens de cette façon, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a effacé, à l'effort, effacé, fait disparaître. Il y avait un acte d'ordonnance qui disait Claude Hood, coupable, séparé de Dieu. Et Jésus est venu sur la croix et a dit, il est coupable, mais je vais, moi, l'innocent, venir mourir pour le coupable. Je vais mourir et ressusciter alors qu'il va mettre sa foi en moi. Mon amour va couvrir et effacer sa dette. Il va pouvoir être libre d'entrer dans les plans que j'ai pour lui. Vous savez, à cette époque-là, même ce qui avait le plus de valeur, les scribes, le papyrus, le parchemin était fait avec des peaux d'animaux et c'était courant pour eux. Lorsque ça dit qu'il a effacé la dette, les ordonnances qui étaient retenues contre nous a été effacées. Pour nous, ça passe comme ça. Pour eux, ça avait une vraie signification parce que c'était courant. courant pour des... Ça faisait partie du travail de scribe. Le parchemin était tellement précieux que lorsqu'on voulait le réutiliser, effaçait mot par mot, tâche par tâche, jusqu'à ce qu'il soit immaculé et recommençait à écrire de nouveau. Josephus Flavius, l'historien juif, raconte des moments de cérémonie comme Matthieu 18, où des gens venaient ensemble, puis lorsqu'ils venaient ensemble, il y avait une dette sur une maison, quelque chose qui avait été effacé. Ils l'ont payé pendant des années. Et là, c'était toute la famille était là en célébration, alors qu'ils effaçaient chaque dette, chaque chose pour écrire par la suite. Est-ce que tu comprends que le Seigneur a effacé notre dette? Chaque faute, chaque passé, chaque erreur, chaque tromperie, chaque mensonge, chaque trahison, il les a toutes effacées pour écrire sa nouvelle destinée pour toi et pour moi. J'ai reçu ce pardon avec lequel je dois pardonner. Vous devriez applaudir vos offenses qui ont été effacées par Dieu. J'ai été touché au mois de mai de cette année. Lorsque j'ai vu une graduation, on a eu notre graduation ETF et toute l'université avait leur graduation. Lorsque j'ai vu la graduation, une illustration moderne d'une dette effacée, j'ai vu la graduation du collège Morehouse aux États-Unis. Puis un homme qui s'appelle Robert Smith, qui est un milliardaire, qui a été invité juste pour faire un speech puis recevoir un doctorat honorifique. Mais il avait une surprise de préparer pour les étudiants. Les étudiants qui étaient là, des centaines d'entre eux, avaient tous une dette entre 125 et 175 000 $, une dette étudiante. Puis lui est arrivé en disant, « Je veux vous annoncer une bonne nouvelle, j'efface votre dette. » Regardez bien Robert, regardez si ça prend une minute. Regardez-le pendant un instant et regardez-le surtout avec un œil sur le fait, avec un cœur sur le fait que voici pourquoi je dois pardonner. Parce que Dieu a effacé notre dette pour nous libérer. Afin d'accomplir, malgré toutes les offenses que ma vie avait été pour lui, à effacer ma dette, afin que je puisse accomplir maintenant ses œuvres dans ma vie. Effacer la dette.
My family is making a grant to eliminate their student loans. Generations of my family who have been in this country, we're going to put a little fuel in your bus. This is my class, 2019. And my family is making a grant to eliminate their student loans.
Seigneur, merci pour le sang de Jésus, plus précieux que 40 millions de dollars qui est venu effacer, afin que je puisse effacer la dette de Don. J'aimerais le musicien de s'approcher. Dans le prochain message, nous allons découvrir ensemble le plan de Dieu pour la guérison de l'offense. Et la raison pour laquelle le message aujourd'hui est tellement important, c'est que, à moins que vous ne réalisiez l'importance, à moins que vous le preniez personnellement, que vous ouvriez votre cœur, et je peux le dire après 35 ans de pastorat, vous prêchez tous les plans de Dieu pour votre libération. Puis j'ai vu des gens, tout simplement, quel que soit ce qui est donné, si le cœur n'est pas ouvert à reconnaître l'offense et son œuvre destructrice et à fermer la porte, le piège de l'ennemi, tous les messages passent par-dessus eux et même à la limite les endurcir. Il y a des gens qui ont entendu 50 messages sur les offenses puis ont resté de plus en plus enracinés dans leur offense. Une description dans la Bible de l'offense, parce qu'on va voir la semaine prochaine dans le message, parce que c'est assez saisissant que celui qui était tellement pardonné puis qui refuse de pardonner, il veut mettre l'autre en prison. On l'a lu ensemble, il l'a enfermé jusqu'à temps que tu... Je veux limiter l'autre personne au mal qu'il m'a fait. Je l'emprisonne dans le mal qu'il m'a fait, c'est tout. Mais c'est lui qui se retrouve en prison. C'est lui qui se retrouve dans le cachot de son non-pardon. Et le Proverbe 18, qui parlait plutôt des offenses, décrit cette personne-là, puis c'est juste mot à mot ce qui arrive. Moi, j'ai vu ça depuis 35 ans de pastorat. Proverbe 18, 1 à 3, « Celui qui se tient à l'écart à cause de l'offense, c'est le Proverbe 18, Il s'isole, il cherche seulement son propre jugement. Il vient en colère, il s'irrite, il rage, il rages contre tout ce qui est sagesse. Ce n'est pas à la compréhension que cette personne-là qui a perdu son sens par l'offense prend plaisir. C'est à la manifestation de ses propres pensées seulement quand vient la méchanceté, vient alors le mépris et la honte. J'ai vu des personnes qui, dans l'offense, au fil des années, en viennent, qui ne sont même pas capables de tolérer d'entendre le message que c'est, même pas capables de tolérer un message de pardon, même pas capables. Ils ragent contre tout ce qui serait sagesse qui pourrait les libérer. Jésus dit, pose la question comme il a posé à l'homme au bord de la piscine. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri de ton offense? Parce que si tu veux être guéri de ton offense, tu n'en as pas la capacité en toi-même. Mais voici mon plan pour ta guérison qu'on va développer ensemble. Je vous donne deux promesses en terminant. Dans Jude chapitre 1, il dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant, building yourself up, littéralement dans le grec, te reconstruisant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit afin de vous maintenir dans l'amour de Dieu. » Quelque chose qui est assez puissant, c'est qu'il y a un équilibre dans le royaume de Dieu. Lorsqu'on est sous offense, on peut être aidé par des gens, on peut être édifié par des personnes qui nous encouragent. Mais on a tous vu et connu des gens qui ont tout essayé, tout fait pour les encourager, mais il y a une partie où la parole de Dieu dit, c'est toi qu'il faut qu'il t'édifie toi-même sur le Saint-Esprit. C'est toi qu'il faut qu'il aille à Dieu. C'est toi qu'il faut qu'il dise, Saint-Esprit, je viens à toi, j'ai une offense, un non-pardon, j'en suis incapable d'en guérir par moi-même, mais viens maintenant par ton Saint-Esprit, oh Dieu, viens maintenant me répandre ton amour dans mon cœur. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira aux Romains, que l'espérance, elle ne ment pas, que nous savons qu'à travers nos blessures, Romains 5, Dieu développe notre persévérance et que la persévérance produit la victoire et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne se trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui nous a donné, quelle que soit l'ampleur de l'offense, l'Esprit de Dieu en nous pour ceux qui le recherchent peut et va nous guérir, nous restaurer, nous protéger des pièges de l'offense et nous rendre capables de... Même l'épreuve devient, produit une persévérance et la persévérance produit des victoires. Et la victoire fait de nous des hommes et des femmes qui déclarent une espérance, un espoir à tous ceux qui ouvrent leur cœur. Quelle que soit l'offense qui a paralysé ta vie, l'Esprit de Dieu peut t'en libérer dans le nom de Jésus. Et ceux qui l'ont vécu, voulez-vous applaudir à quelqu'un qui a besoin de l'entendre? Faire le ménage. Je vais amener la chaise. Je n'ai pas prévu de faire ça, mais je vais prendre une minute avec vous. 26e anniversaire de Nouvelle Vie qu'on célèbre aujourd'hui, qu'on souligne, qu'on va célébrer cet automne. J'ai honoré tantôt parmi les fondateurs de Nouvelle Vie, Pasteur Marc, mon frère. Puis ce matin, je vais honorer son père, mon père dans la foi. En 26 ans, nous n'aurions jamais pu bâtir ce que nous avons bâti si nous n'avions pas pratiqué ce que je vous communique ce matin. Il y a eu de nombreuses offenses, déceptions, déchirements, d'année en année en année. Mais je me tiens devant vous aujourd'hui avec un cœur qui est sans haine, sans rancune, sans offense, parce que l'Esprit de Dieu est toujours plus grand pour venir purifier, guérir, restaurer. Mon cœur est entier, passionné pour Dieu, aimant le royaume de Dieu, aimant la maison de Dieu, m'attendant aux grandes choses de Dieu par son Saint-Esprit, et j'ai eu des modèles que je veux honorer. Les premiers 30 ans de son ministère, Pasteur Sam Lecomte, qui est mon père spirituel, m'a inculqué que quel que soit ce qui traversait, n'a jamais permis à une offense, une déception, une blessure, jamais permis d'altérer son cœur pour Dieu, son amour pour Dieu, son sens de privilège à servir Dieu. Si je peux me permettre de dire ceci, il y a 8 ans, lorsqu'il a subi un AVC, lorsqu'il est devenu paralysé d'une partie de son corps, lui et son épouse Josée, lorsque tout à coup, après toutes ces années de ministère, il y a plein de choses qui étaient tellement faciles, qui étaient tellement communes, qui étaient maintenant plus possibles. Il a dû réapprendre et à marcher et à écrire et à parler et à avancer. Puis il y a plein de choses maintenant qui sont... Et je veux dire à Pasteur Sam, mon père spirituel, ce matin, que dans le premier 30 ans, vous m'avez tellement impressionné, béni et inspiré, mais encore plus dans les derniers 8 ans. Parce que les personnes qui laissent l'offense faire l'œuvre dans leur cœur, leur offense des hommes devient une offense envers Dieu. devient une offense, où il dit où ils sont aigris, où ils sont. Et dans les derniers 8 ans, j'ai été plusieurs fois, alors que je traversais mes propres périodes de bataille, de combat, j'ai été tellement de fois waoué de voir arriver Pasteur Sam et José, son épouse. Je ne comprends pas tout ce qui nous est arrivé, je n'ai pas choisi tout ce qui nous est arrivé, mais il n'y a pas d'offense dans mon cœur. Saint-Esprit, tu nous as bénis, tu nous as remplis de ta grâce, tu nous as pardonné. Moi, j'ai le privilège d'être assis à côté de Pasteur Sam pendant la louange. Et honnêtement, souvent, nos choix de chants ne sont pas dans son répertoire à lui. À 80 ans, lui, il a ses propres chants, et souvent, il chante son propre chant pendant que nous autres, on chante le nôtre. Avec une voix que seulement Dieu peut aimer. Mais il n'a pas eu sa voix angélique encore. Mais dans mes tempêtes, moi, que j'ai traversées, dans mes moments là, où que tout déchire en dedans, puis tout pourrait, là, les dimanches matins, ou dans ces derniers 26 ans debout, et voir arriver dans les derniers 8 ans en particulier, Pasteur Sam être là, et commencer à chanter comment est-ce qu'il est reconnaissant envers Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, comme tu es bon envers moi, Seigneur. Il n'y a pas d'offense dans mon cœur, ni envers quoi que ce soit, qui que ce soit, ou même envers toi. Mon cœur est rempli de ta grâce. L'amour a triomphé. J'ai tellement été pardonné. Comment ne pourrais-je pas relâcher ton amour et ta grâce? Et pour ça, je vous dis merci. Je dis merci. Alors ce matin, je plaide avec vous, je plaide avec toi de ne pas laisser l'offense continuer une minute de plus. Je plaide avec vous ce matin, est-ce qu'on peut se lever ensemble dans la présence de Dieu? Je plaide avec vous de symboliquement tendre vos mains avec moi vers Dieu et de dire, Seigneur, quelle que soit l'offense, je veux la remettre entre tes mains. J'ai été tellement pardonné que je veux pardonner maintenant. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Dieu et lui remettre? Remettre entre ses mains toute offense. Remettre entre ses mains toute blessure. Vous êtes ici ce matin, nous allons chanter son amour qui a triomphé. Mais ce matin, vous êtes ici, vous dites, Seigneur, j'ai été offensé, mais je vais guérir. Je veux guérir de cette offense. Ouvre ta bouche, ouvre ton cœur, remets-toi entre les mains de Dieu. Parce que Jésus m'a pardonné 1 milliard, je veux relâcher toutes les offenses. J'étais seulement rempli de comment moi j'avais été offensé. Mais quand je mesure à quel point je t'avais offensé, oh Dieu, comment... Tu as effacé, tu as pardonné. Mon âme chante ta grâce et ton pardon. Je veux fermer la porte à tous les pièges de l'ennemi dans ma vie. Je me repens de mon idolâtrie si j'ai mis mon offense au-dessus de toi. J'amène tous mes raisonnements captifs à ta grâce, à tes commandements et à ton amour. Et je le déclare aujourd'hui, Seigneur, comme j'ai reçu ton pardon. Par ton Saint-Esprit, je vais relâcher. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais Saint-Esprit, viens faire l'œuvre dans mon cœur. Ne me permets pas d'être isolé, ne me permets pas d'être loin. Saint-Esprit, tu vas rebâtir ma vie. Édifier, rebâtir mon âme, ma foi, ma confiance, ma louange, ma vie de prière, mon appel devant toi. Je reviens, je rebâtis, je vais être rebâti par toi, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, et tout le peuple de Dieu dit un grand Amen. Et si vous voulez faire sa volonté, voulez-vous applaudir avec moi, je veux faire ta volonté.